www.libradio.org.
Nous sommes le samedi 4 novembre 2021 à Yverdon, précisément à la maison d'ailleurs. Marc Attala, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir, par ailleurs un samedi. Donc c'est vraiment sympa de votre part de prendre un petit moment. On va essayer de faire vite, justement, comme on a dit. Vous êtes le conservateur et le directeur de la maison d'ailleurs. Alors, est-ce bien ça?
Je suis directeur curateur. C'est-à-dire, en fait, j'ai deux fonctions. J'ai un côté directeur opérationnel, donc je m'occupe de tout ce qui est gestion de l'équipe, budget, finance, recherche de fonds. Mais parallèlement à ces tâches administratives qui ne sont peut-être pas les plus fascinantes au quotidien, je conçois les expos avec mon équipe, mais disons que j'ai la tâche ou la mission de devoir choisir les thématiques d'expo et puis de défricher un peu au début ce que j'ai envie de faire. Puis après, l'ensemble de l'équipe de la maison d'ailleurs va travailler sur les expositions avec moi.
Très bien. Alors, nous sommes ici à l'espace Jules Verne. C'est effectivement extrêmement emblématique du contenu de la maison d'ailleurs. On va en parler un petit peu plus en avant. D'ailleurs, on a quelqu'un qui est fan, hein, un parmi l'équipe de Libre Radio. Pierre, toi, tu as déjà visité cette maison d'ailleurs. Qu'en as-tu retenu?
Pour moi, c'est un des plus beaux endroits au monde. Je suis membre des amis de la maison depuis longtemps. Et j'adore la science-fiction, j'adore cet endroit. Et je pense qu'il n'y a aucune exposition qui m'a déçu. Donc, tout est merveilleux dans ces murs.
Place Pestalozzi 14. Les horaires d'ouverture vont du mardi au dimanche de 11h à 18h. C'est fermé les lundis comme beaucoup de musées. Le site internet, c'est l'adresse suivante, www.ailleurs.ch. Voilà, ça c'est pour les petites remarques triviales mais obligatoires. Alors, j'avais lu sur le site internet la chose suivante. En 1976, Pierre Versin inaugure la maison d'ailleurs ici à Yverdon, dont les fonds réunissent les quelques 50 000 livres et objets rassemblés en près de 25 ans sur la base, pourrait-on dire, d'une collection privée.
Oui, la maison d'ailleurs est une, au départ, c'est une collection privée. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre Versin, qui habitait dans la région, a légué, alors au départ à la ville, après il y a eu pas mal de modifications administratives, mais au départ, il a légué sa collection qu'il avait effectivement amassée pendant des décennies à la ville. Et cette donation a conduit à la création de la maison d'ailleurs, qui n'était pas du tout l'endroit où on est maintenant. Hein. C'était l'appartement qui avait été mis à disposition par la ville d'Yverdon-les-Bains à Versin. Donc c'était une sorte d'appartement au centre-ville, enfin dans la vieille ville historique d'Yverdon. D'où le fait d'ailleurs que le musée s'appelle la maison, puisqu'au départ c'était l'appartement de Versin. Et puis le musée a intégré les anciennes prisons d'Yverdon-les-Bains au tout début des années 90, et puis est devenue une fondation privée en 1998. Autrement dit, c'est une histoire déjà un peu particulière, puisqu'au début c'est un musée communal, puis après c'est devenu une fondation privée, ce qu'on est toujours aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis au départ, c'est 50 000 objets qui composent le fonds initial ou le fonds historique du musée qui ont été complétés. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 130 000 objets dans les collections du musée, en sachant qu'une des richesses des collections du musée, c'est qu'elles elles sont très éclectiques, c'est-à-dire qu'on a autant du livre, de la bande dessinée, de la fiche de film, du jouet, du jeu de société, des figurines d'action, etc. Donc on a une collection qui est très, mais magazine aussi beaucoup, qui est très vaste et qui a comme propriété, en tout cas comme point commun, tous les objets partagent un point commun qui est le fait qu'ils présupposent ou qu'ils impliquent ou qu'ils décrivent un monde autre. Hein, et on est vraiment dans l'idée de l'ailleurs. Et donc dès qu'on est face à un monde autre, l'objet a sa place dans les collections du musée. Alors c'est ce qui rend les collections impossibles à achever, parce qu'il y a eu tellement de productions au XXe siècle et au XXIe que c'est impossible d'être exhaustif. Mais en même temps, l'avantage, c'est que c'est aussi des collections qui sont assez éclectiques. On peut travailler sur plusieurs types d'objets différents.
Voilà, et puis effectivement, d'où l'intérêt ensuite de proposer des expos temporaires qui viennent éclairer une des parties de ces archives qui sont, comme vous le dites, infinies.
Oui, c'est presque même l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans les expositions, puisqu'on n'est pas un musée d'art, hein, on est un musée thématique qui travaille autour de ces mondes autres, donc science-fiction, utopie, etc. Ce qui m'intéresse, c'est d'éclairer certains phénomènes contemporains, c'est-à-dire des choses qui se passent aujourd'hui. et qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. Ça peut être la question du handicap, ça peut être la question de l'altérité, ça peut être la question de l'homme augmenté, enfin, des choses qui sont dans notre monde aujourd'hui traitées de plein de manières différentes, sans forcément qu'on soit dans la science-fiction. Mais ce qui m'intéresse, c'est de créer un dialogue entre le patrimoine, donc les collections du musée, qui elles sont justement en lien avec la science-fiction et ces mondes autres que j'évoquais tout à l'heure, et puis de voir comment ce patrimoine et les productions artistiques contemporaines permettent d'enrichir le débat sur ces questions de société. Donc c'est un peu une sorte de il y a trois pôles en fait dans la maison d'ailleurs qui dialoguent ensemble. Il y a le pôle phénomène de société contemporain, il y a le pôle patrimoine, donc objet historique, qui montre comment notre imaginaire s'est constitué. Et puis il y a un troisième pôle qui est le point de vue artistique, comment les artistes aujourd'hui contribuent à ce débat ou en tout cas dialoguent avec ces objets, ces traditions, ces imaginaires.
Et vous-même, parce qu'on ne vous a pas encore questionné à ce propos-là, de quelle manière avez-vous accosté la position qui est devenue la vôtre maintenant? Est-ce que vous êtes d'abord un lecteur féru de Lovecraft, de science-fiction, ou bien c'est une autre trajectoire qui vous a mené là où vous en êtes?
Alors, étrangement, ce qui m'a valu quelques déboires au début, moi, je ne suis pas un passionné de science-fiction. Alors, au sens, on s'entend, c'est-à-dire que je connais extrêmement bien la science-fiction, mais je ne suis pas un passionné. C'est-à-dire que j'ai découvert la science-fiction à 24 ans. Donc déjà, je ne suis pas le gars qui est depuis tout petit. Je ne suis même pas sûr d'avoir lu un Jules Verne quand j'étais enfant. Peut-être un. Mais j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université de Lausanne sur la science-fiction. Autrement dit, je ne suis pas passé par la case fan. Je suis passé par la case chercheur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé entre mes 24 et mes 32 ans là-dessus, puisque j'ai occupé plusieurs postes à l'Université de Lausanne. Mmh. D'abord assistant doctorant, où j'ai fait mon doctorat, après premier assistant. Et puis, lorsque l'ancien directeur du musée est parti, de la maison d'ailleurs, il m'a proposé, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes, mais en tout cas aussi à moi, il m'a proposé de reprendre la direction du musée. Et je pense que cette espèce de statut étrange que j'ai, c'est-à-dire à la fois je connais extrêmement bien la science-fiction dans ses différents modes d'expression, BD, jeux vidéo, livres, etc., films, mais en même temps je ne suis pas un fan, c'est-à-dire je garde toujours un peu de distance avec l'objet qui m'intéresse, hein, une distance minimale, ça me permet de pouvoir aussi peut-être plus facilement réfléchir dans les expositions, à impliquer à la fois les fans, c'est-à-dire les gens qui connaissent très bien, leur proposer quelque chose d'original, de différent, et puis à la fois aussi de m'adresser aux gens qui ne connaissent pas. Et je crois que c'est une des grandes qualités que la maison d'ailleurs a eue on va dire les 10 dernières années, c'est qu'elle s'est vraiment démocratisée. C'est-à-dire en fait, soudainement aujourd'hui, la majorité de notre public, c'est un public qui connaît très peu la science-fiction. Et c'est ce qui fait aussi que j'en parle de moins en moins. C'est très rare que je parle de la science-fiction. Je parlais des monstres, je parlais de l'utopie ou de la dystopie, j'ai parlé des expos, mais c'est plus seulement le temple de la science-fiction, c'est autre chose. Mais il s'avère que ce temple qui est autre chose, il est quand même bâti sur des collections en lien avec la science-fiction. Mais c'est un mot qui est tellement bizarre si vous êtes connaisseur, vous adorez, et si vous n'êtes pas connaisseur, vous allez dire « Ouais, moi, j'aime pas trop la science-fiction », alors que ça veut rien dire, la science-fiction. C'est des milliers de livres, de films, de bandes dessinées. Enfin, les gens, quand ils parlent de 1984 d'Orwell, ils se rendent même pas compte que c'est de la science-fiction. Donc le mot était plutôt rédhibitoire. Il avait tendance un peu à faire en sorte que les gens aient peut-être un peu peur de venir au musée. C'est ce qui fait que la maison d'ailleurs, pendant longtemps, a eu un peu la réputation d'être un musée pour initiés. Hein, si vous connaissez pas, vous venez pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est de faire des expositions grand public et puis que les initiés peuvent aller plus loin avec les catalogues d'expo, avec certaines réflexions qui sont proposées dans l'exposition, mais qui sont plus centrales. Mmh. C'est qu'elles deviennent périphériques. Et je crois que cette espèce de nouvelle maison d'ailleurs, quelque part, elle n'est pas nouvelle dans les murs, hein, on reste le même musée, mais dans l'approche des expositions, le dialogue qu'on établit avec les publics, ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, parce que si on aime la science-fiction, on a envie que les gens découvrent aussi ces richesses, en fait. Et découvrir ces richesses, parfois, c'est passer par un autre chemin. Hein, là, les gens voient des monstres partout, et finalement, ils vont voir des monstres de science-fiction. Mais on ne fait pas une expo sur les monstres de science-fiction. Absolument. On fait une expo sur les monstres. Et ça enrichit aussi la thématique. Voilà, c'était un peu l'idée de pouvoir ouvrir le musée à d'autres publics, à d'autres dialogues, et puis à d'autres manières de penser aujourd'hui ces imaginaires qu'on a appelés longtemps la science-fiction, sans par ailleurs souvent savoir ce que ça veut dire.
D'accord. Ouais, on comprend bien là les axes que vous êtes, que vous proposez d'aborder et que vous poursuivez. Bien entendu que toutes les questions, vous le savez. Concernant, j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes aux collections. Parce que comme vous l'avez dit, ce sont des collections en perpétuelle augmentation. Comment est-ce qu'on filtre ça? Est-ce que vous êtes encore contacté par des personnes qui vous disent « Moi, j'ai un fonds que je pourrais vous donner d'un auteur X ou autour d'un sujet Y ». Comment vous faites ça et où est-ce qu'on conserve tout ça? Parce que ça nécessite une infrastructure.
Alors la première chose intéressante, c'est que les collections du musée n'auraient pas dû exister. Ça, c'est la première chose qu'il faut. C'est un truc bizarre à la maison d'ailleurs, c'est qu'en fait, on va dire 95% de nos collections, c'est ce qu'on appelle des produits populaires. C'est des romans, des BD, etc., qui ont été produites, mais qui n'avaient pas pour vocation d'être conservées. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était enfant, vous ne gardiez pas les magazines que vos parents vous achetaient dans un coin en disant peut-être qu'un jour... voilà. Donc il y a eu une production massive depuis la fin des années 20, hein, avec l'émergence de ce qu'on appelle l'industrie populaire ou l'industrie culturelle, qui a commencé à produire en masse, pour un public qui a plus d'argent qu'au 19e siècle, des choses. Livres, romans, magazines, BD, puis après jeux vidéo, etc. Sans pour autant que ces objets avaient pour but d'être conservés. Alors, une des spécificités des collections de la maison, d'ailleurs, c'est que ces objets sont conservés. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retracer un ensemble de productions qui n'auraient normalement pas dû laisser de traces, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais c'était ça. C'est-à-dire, en fait, tous nos livres ici sont des trucs ultra cheap. Hein, c'est pas comme si vous avez une collection d'art ou une collection de vieux livres. Alors, nous, on a quelques vieux livres, donc ça, c'est peut-être un peu différent. Mais dans tout ce qui est produit depuis les années 20, un pulp magazine américain, ça avait personne conservait ces trucs. Enfin, je veux dire, vous lisiez, vous passiez à côté, vous jetiez, etc. Ouais. C'est aussi ce qui explique la cote qui augmente beaucoup sur le marché des collectionneurs de ce genre d'objets-là. Parce qu'aujourd'hui, avoir une BD des années 30 ou 40, ça devient extrêmement compliqué, extrêmement cher, alors que pourtant, c'était produit à 400, 500 000 exemplaires. Hein. Mais tout le monde jetait, donc il en reste quasi plus. Donc une des forces des collections du musée, c'est d'être... d'avoir amassé, réuni un ensemble d'objets qui avaient pour vocation de ne pas exister, en tout cas de ne pas être conservés. Or, à travers ces objets-là, on peut raconter quelque part. On peut raconter, si on les voit comme des documents, c'est-à-dire comme des objets qui produisent à un moment donné, s'inscrivent dans un contexte spécifique, on peut raconter un peu une histoire un peu étrange de notre imaginaire. C'est notre imaginaire, l'imaginaire humain, se constitue avec beaucoup, beaucoup d'éléments différents, mais en particulier avec les lectures, avec les films qu'on voit, etc. Hein. Même les images aussi, l'iconographie typique de la science-fiction, souvent c'est une iconographie dans notre imaginaire qui date des années 50-60. Alors nous, avec ces documents, on peut retracer la constitution d'un imaginaire d'aujourd'hui, qui a un imaginaire qui est inspiré par la science-fiction et qu'on a vu plein de fois en activité ou en action, hein, pendant la pandémie, au début de la pandémie, vous aviez des comportements sociaux qui étaient des comportements hérités évidemment de notre imaginaire, puisqu'on n'a jamais été, on n'a jamais vécu dans une pandémie mondiale, donc en fait on ne sait pas comment se comporter, et quand on ne sait pas comment se comporter, souvent ce qu'on fait, c'est soit on le fait de manière irrationnelle, soit on va puiser dans notre imaginaire pour se dire « Ah tiens, bon, ben, on va faire peut-être des réserves chez moi au cas où je dois rester chez moi plus longtemps que prévu. » Donc en fait, nous, on peut raconter cet imaginaire. Ou l'émergence de cet imaginaire, on peut voir comme moi aujourd'hui, on se rapporte aux robots, on se rapporte aux IA, au développement technologique, et puis comment ces choses-là, en fait, elles sont inscrites d'abord dans la science-fiction et pas tellement dans le monde réel. Hein, aucun robot ne s'est jamais révolté contre son créateur, mais on a toujours un peu peur que les robots se révoltent. Et ben, c'est la science-fiction qui fait que les robots se révoltent, c'est pas tellement le monde réel, en fait. Donc voilà, nous, on peut raconter ça. Donc ces collections, c'est en ça qu'elles sont excessivement intéressantes, c'est qu'en fait elles sont très rares, hein. Enfin, vous voyez, c'est rien n'est rare, mais la collection dans sa globalité devient rare, puisque ces choses de nouveau n'auraient pas dû être conservées. Alors comment est-ce qu'on fait? Bon, déjà on a pas mal de collectionneurs qui se tournent vers nous. Bon, évidemment il n'y a qu'un musée de la science-fiction en Europe, donc en fait ceux qui ont collectionné je ne sais quel type de livre, ouvrage, objet, dès qu'ils sont en fin de vie, ils ont vite tendance à se tourner vers nous en disant, voilà, mon mari ou mon épouse, alors c'est plutôt les garçons qui faisaient ça dans les années 40, 50, 60, mais à collectionner tous les magazines de, tous les livres de, etc. Est-ce que vous êtes intéressé à acquérir cette collection ? Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'on est passé des 50 000 objets de Versailles à 130 000 aujourd'hui. C'est qu'on a beaucoup de gens qui nous, qui nous ont légué leur collection. Après, il y a des collections qu'on achète. Hein, on suit aussi un petit peu l'évolution comme ça. Donc on va se dire, tiens, on a une collection de, je sais pas, de comics Star Wars. On a, je sais pas, les 3000 ou 4000 premiers. Bon, on se dit qu'on va continuer à les acheter année après année pour éviter que cette collection soit amputée de la production récente. Donc en fait, il y a une partie de leg qui est quand même majoritaire pour monter dans le nombre d'objets. Puis il y a une partie de constitution, disons, d'approvisionnement permanent de la collection par des achats qui sont en général ciblés. Et on a deux politiques d'achat, trois. On a une politique d'achat ancien et de luxe, c'est-à-dire en fait on se fait plaisir une ou deux fois par année avec des objets rares qui coûtent assez cher. Hein, c'est ce qu'on appelle le fonds ancien, par exemple les jeux de loi au 19e siècle ou des choses comme ça qui sont quand même assez onéreuses. On a une politique d'acquisition sur les expos, c'est-à-dire en fait comme on anticipe les expositions, en fait le conservateur va sélectionner des objets pour l'expo d'après ou la thématique de l'expo d'après qui vont par ailleurs être directement montrés. C'est un des avantages, on achète et on montre dans l'expo. Et puis on a une troisième politique d'acquisition, si vous voulez, c'est trois champs différents qui va être de trouver des lots spécifiques, de compléter les collections, de faire des achats en lien avec ce qu'on aimerait faire, etc. Okay. Donc si vous voulez, c'est voilà. Et puis ces collections sont entreposées dans trois lieux, dans l'espace Jules Verne dans lequel on est. On a la plupart des collections livresques qui sont ici. On a environ 30 000 livres dans l'espace qui sont donc des livres qui raconte un peu l'histoire de la science-fiction depuis les années 1850 à peu près jusqu'aux années 1980 à travers les livres francophones plutôt. Et puis on a la collection des pulp aussi ici. Là on a un des entrepôts, c'est là. L'espace Jules Verne, c'est quand même un espace de stockage.
D'accord.
Après c'est un bel espace de stockage, ouais. Mais c'est quand même un espace de stockage. Après on a un entrepôt sous le musée, en l'occurrence des Compactus. On range les magazines, les bandes dessinées, le cinéma, etc. Et puis on a un entrepôt à l'extérieur d'Yverdon qu'on partage avec les archives communales où là on va avoir tout ce qui est jouets, objets, jeux, les œuvres d'art aussi, d'autres collections de livres, etc. Donc on a en fait trois lieux mais qui sont à chaque fois attribués à un certain type de patrimoine.
Okay.
C'est ce qui fait que nos collections sont un peu rangées partout comme ça.
Ça me permet de vous questionner sur l'équipe du musée, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la main d'œuvre pour inventorier, pour ensuite monter ces expositions, pour faire la com et tout. Voudriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste l'équipe du musée ?
L'équipe du musée, elle a beaucoup changé déjà, parce que moi, quand je suis arrivé, on était quatre, moi y compris. Donc là, je parle des postes permanents.
Oui.
Il y avait trois permanents plus moi, et aujourd'hui, on est à 10 permanents plus trois contrats à durée déterminée qui se renouvellent ou pas ou qui changent. Enfin, donc on est 14. Et à ces 14, vous rajoutez après tout le personnel auxiliaire, les guides, les auxiliaires de réception, de montage, etc. Ce qui fait que l'équipe complète du musée, c'est 31 personnes.
D'accord, ouais, donc ça a bien évolué.
Donc le musée a beaucoup évolué, mais aussi parce qu'il a une activité qui a beaucoup évolué. On fait beaucoup d'activités pour les enfants, pour les familles, pour les adultes. On fait beaucoup de choses aussi à gauche, à droite, des expos à l'extérieur. On participe à pas mal d'événements, des workshops, des choses comme ça. Donc l'équipe du musée, elle est structurée avec une colonne vertébrale, qui sont les postes essentiels, la médiation culturelle, qui va s'occuper vraiment du rapport enfant-ado, adulte-famille. Donc toutes les mesures qui vont faire l'interface entre le public et l'exposition. On va avoir la conservation qui va travailler sur tout ce qui est acquisition d'objets, préservation d'objets et puis sélection d'objets pour les expositions. On va avoir la com, le marketing, les événementiels, etc. Donc après, on a d'autres postes comme ça qui se Et une expo, ça se monte avec... moi, je lance et j'initie le thème. Je propose un premier concept d'exposition qui permet de dire voilà ce que j'aimerais, ce que je trouverais cool qu'on fasse. Puis après, chaque secteur en lien avec le contenu va travailler le contenu en me proposant des alternatives, autre chose et autres. Et puis, en parallèlement à ce travail sur le contenu qui va toucher deux secteurs principalement à part moi, c'est-à-dire la conservation qui va s'occuper du contenu historique et la médiation qui va s'occuper de la manière de mettre en avant ce contenu, de choisir entre plusieurs choses différentes, etc. Après, on va avoir le responsable des montages, le responsable technique, qui lui, en fait, va commencer à mettre en œuvre avec les scénographes l'expo telle quelle. Puis après, on va rentrer dans des périodes de montage. Puis là, on est beaucoup à monter l'exposition. Ça fait 7-8 personnes à peu près, où on repeint tout, on casse tout, on reconstruit, on accroche, etc.
Ouais, ça bosse dur, en tout cas à la maison d'ailleurs. Je et ton monstre, c'est l'exposition temporaire actuelle qui court du 13 novembre au 9 janvier 2022. Nous allons en parler maintenant, mais juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aurais voulu savoir si, selon vous et au vu de vos collections, la dystopie et l'utopie sont-elles représentées à part égale dans l'univers de la science-fiction, ou est-ce qu'on observe que, voilà, quand on est dans un domaine comme ça de l'imaginaire, on verse plus d'un côté ou de l'autre? Je vous dis ça également à l'aune de ce qui effectivement nous assiège en ce moment et de ce qu'il va en rester, parce que dans quelques années, vous aurez probablement dans les collections les résultats de ce qui se passe en termes de création artistique autour de la Covid.
Alors, je pense qu'il y a déjà plus de dystopie que d'utopie, okay. Mais pour deux raisons. La première raison, c'est que la plupart des utopies ont été écrites entre le 16e et le 18e, début 19e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un type de production qui est déjà pas massif. Il n'y a pas beaucoup de... On dit qu'entre le 16e et le 18e siècle, il y a 400 utopies qui ont été écrites. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a 300 dystopies qui sortent par année sur le marché éditorial. Donc déjà, c'est pas comparable.
Ouais.
Mais aussi parce que les contextes de production, etc., sont pas comparables. L'autre chose, c'est qu'une utopie, c'est pas très intéressant à lire. Parce que les mondes parfaits, les mondes idéaux, bon, bah, il s'y passe pas grand-chose quand même. Et quand on lit les utopies classiques, c'est vite ennuyeux. Parce qu'on va nous présenter un ensemble de réformes. Socio-économique ou sociopolitique, avec un postulat selon lequel ces réformes rendraient l'être humain épanoui. Même si dans les utopies classiques, et là je parle bien sûr des textes, hein, oui. On ne sait pas vraiment ce que pensent les gens. En fait, ils n'ont pas la parole. On les postule heureux, mais on ne sait pas trop. Et un des critères qu'on met comme lien entre les deux, c'est que le monde utopique est parfait de l'extérieur. C'est-à-dire, en l'occurrence, on le voit parfait, on le décrit comme parfait. Et dans la tradition littéraire, c'est au moment où je vais suivre quelqu'un dans une utopie, comment il vit concrètement cette perfection, que le système va se renverser dans ce qu'on appelle la dystopie. Et c'est pour ça que toutes les dystopies sont racontées par quelqu'un qui vit dans des mondes utopiques. Donc le lien est très fort. Une dystopie, c'est une utopie racontée. Et ce n'est pas forcément pire ou mieux. Et inversement, une utopie, c'est une dystopie décrite. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est juste qu'on ne voit pas comment ça se passe à l'intérieur.
Oui.
Donc, le lien est assez fort entre les deux. Et les contextes ont fait qu'il y a eu plus de gens qui ont raconté des dystopies. Et ce, pour deux raisons. Bon, premièrement, parce que c'est quand même plus intéressant. Ça ne faut pas oublier quand on lit. Hein, on connaît bien l'adage qui dit « les gens heureux n'ont pas d'histoire ». C'est-à-dire, en l'occurrence, raconter un monde qui va bien, c'est chiant. franchement, il faut qu'il y ait des problèmes. Il faut que... Une histoire, elle est bien quand il y a des catastrophes et quand des individus essayent d'absorber cette catastrophe et de la résoudre, sinon ce n'est pas très intéressant.
Mmh.
Et puis la deuxième raison, en tout cas c'est une des idées qu'on a, c'est qu'en fait, lorsque les utopies ont été écrites entre le 16e et le 18e siècle, le monde dans lequel les gens vivaient n'était pas du tout utopique, vraiment pas du tout. Il n'y avait aucune velléité non plus de construire des mondes idéaux. Hein, c'était pas du tout le but avant le 18e, avant le siècle des Lumières. Après les Lumières, on va avoir cette idée qu'on peut réaliser le meilleur des mondes sur Terre. Et une des forces de frappe de cette réalisation, c'est le monde libéral. On peut oublier que nous, chaque année, on a des articles qui nous disent le PIB augmente, les gens sont heureux. Oui, c'est ça, hein, cette idée que la croissance économique, elle agirait sur le bonheur humain. Et puis l'autre chose, c'est le progrès technologique. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est d'ailleurs la mission des premières écoles polytechniques en France, à Paris, à la fin du 18e, c'est de créer le meilleur des mondes. Alors, pas in abstracto, mais disons d'améliorer le monde. Et c'est peut-être parce qu'on commence à vivre dans des idéologies utopiques qu'on a commencé à raconter des dystopies. Ça, c'est un peu plus fin. C'est tant que vous avez l'utopie au 16e, elle sert en fait à offrir un miroir critique du quotidien. Le monde dans lequel on est terrifiant. Imaginons un monde parfait. Mais pas tellement pour dire qu'on peut vivre dans ce monde-là. Mais surtout pour dire, regardez comment chez nous, c'est pas super. Et quand on prend d'ailleurs le premier texte utopique qui s'appelle Utopia de Thomas More, il y a deux livres. Il y a un livre qui n'est qu'une critique du système anglais de 1516. Ouais. Et le deuxième livre raconte l'utopie. C'est-à-dire le premier livre, il n'y a rien de... Il critique tout ce qui se passe en Angleterre au début du XVIe siècle. Donc il n'y a rien d'imaginaire. C'est une sorte d'analyse politique comme ça. Mmh. Et c'est parce que l'utopie arrive après, il dit, ah bah, la preuve que vous pouvez faire autrement, j'ai vu une fois, j'ai rencontré une île très loin où ils ont fait les choses autrement. Donc c'est une sorte d'outil, en fait, critique. On parle souvent d'un laboratoire épistémologique, c'est-à-dire c'est une manière de penser aux problématiques qui sont les nôtres. Mmh. Alors que la dystopie, elle, comme elle raconte l'utopie, elle raconte ce que c'est que de vivre en utopie, elle va montrer les problèmes de nos utopies.
Hein ? Les failles.
Mais pas du monde réel. Mmh. Si vous prenez 1984, pour prendre un exemple, c'est un peu abstrait ce que je dis. En fait, Orwell ne raconte pas la surveillance. Il s'en fout de la surveillance. Ce qui l'intéresse, c'est de raconter une des utopies actives dans les années 40, qui est portée par Churchill d'ailleurs, qui est l'utopie du langage, qui s'appelle le Basic English. En Angleterre, dans les années 40, on veut réformer le langage anglais en réduisant le nombre de mots pour que tout le monde puisse communiquer. Ce qu'on appelle le Basic English, qu'on appelle nous aujourd'hui l'anglais commercial. Et Churchill valorise cette langue en disant « Enfin, les humains pourront tous se comprendre puisqu'on aura tous la même structure langagière. » Et c'est là-dessus qu'Orwell écrit 84. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas que le titre s'écrive 1984, mais 1984 tout, en toutes lettres. Le cœur même du roman d'Orwell, c'est le langage. Là, les caméras, tout ça, enfin les télécrans, c'est pour s'assurer que les gens ne fassent pas de conneries. Mais son but, ce n'est pas de parler de ça. Son but, c'est de dire on est en train de contrôler les gens parce qu'on contrôle le langage.
La nouvelle langue.
Et c'est donc parce qu'il y a cette utopie du Basic English qu'Orwell invente la nouvelle langue. Qui est d'ailleurs le seul truc qui a une annexe, à la fin de 84, oui. Il y a une annexe qui est d'ailleurs la neuve langue, et qui revient périodiquement, et c'est pas pour rien que Winston commence à devenir critique quand, dans sa petite alcôve, il écrit sa vie, et il raconte, et il se rend compte qu'il a plus les mots, et qu'il doit retrouver les mots, et c'est un ouvrage sur le langage, 1984, et pas sur la surveillance. Donc c'est un ouvrage sur l'utopie linguistique, et pas du tout sur les problématiques de surveillance technologique. Donc c'est ça la dystopie, c'est de raconter les problèmes de nos utopies. Et c'est pour ça qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui, parce qu'on vit plus en utopie qu'au XVIe siècle, c'est sûr.
Très probablement. Merci beaucoup pour cet éclairage tout à fait singulier, tout à fait extrêmement intéressant. Allez, on va à l'expo. Donc, Je est un monstre. Donc, les artistes, pour commencer, ils sont deux, Benjamin Lacombe et Laurent Durieux. Voudriez-vous nous les présenter comme ça en quelques mots ?
Oui, Benjamin Lacombe, ça fait longtemps que je le connais et j'avais toujours eu envie de faire une expo avec lui. Déjà, je trouvais intéressant son travail et je ne savais pas trop sur quelle thématique faire l'expo. Et d'ailleurs, je ne sais plus très bien comment j'ai eu l'idée de faire cette expo, mais j'avais envie, à un moment donné, je ne sais plus trop pour quelle raison, je me suis dit, tiens, une bonne manière de travailler avec Lacombe, c'est de travailler sur la question du monstre. Et à un moment, ça s'est fait, mais je ne sais plus pourquoi. Et à ce moment-là, en fait, ça donne un axe qu'on appelle curatorial. On va traiter la question du monstre. Et puis le but, c'est de la traiter dans ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fait, la question du monstre, c'est d'abord la question du handicap. C'est-à-dire que on a longtemps appelé les monstres humains, les gens qui étaient en situation de handicap.
Ouais.
Donc c'était, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de traiter le monstre, non pas pour une fois pour faire peur aux gens, qui est déjà une vision tardive du monstre, fin 18e avec le roman gothique ou le 20e avec les films d'horreur, mais les monstres ne font pas peur avant le 18e siècle, on n'a pas peur des monstres. Donc je voulais faire une expo qui ne fait pas peur et puis qui réfléchit au fait que le monstre, dans la fiction, donc dans l'imaginaire, pouvait être une certaine déformation des monstruosités humaines. C'est pour ça qu'on préfère dire toujours les méchants dans les films que les gentils. Et c'est là où Lacombe, ça devient intéressant. C'est que dans les monstres de Lacombe, et je prends le monstre au sens non pas justement horrifique du terme, mais au sens étymologique, donc une créature étrange qui nous indique quelque chose, chez Lacombe, tous les monstres de Lacombe nous indiquent quelque chose de l'humain. C'est Voilà, il nous parle de trucs, il nous montre l'égoïsme maternel dans Blanche-Neige, il nous montre l'absurdité du monde dans Alice, il nous parle de la violence humaine dans la famille Appenzell, où les monstres sont évidemment les seuls humains, alors que les monstres sont plutôt sympathiques. Enfin bref, il avait ce traitement double. C'est en fait, à travers le monstre, ce qui est critiqué, c'est pas l'autre, c'est moi. D'où le titre de l'expo, Je vais être un monstre. Mmh. Et c'est quand on a commencé à travailler là-dessus que j'ai trouvé, où je me suis intéressé à l'œuvre de Laurent Durieux. Oui. Parce que comme il faisait beaucoup d'affiches alternatives de cinéma, eh ben, en fait, dans celles qu'il faisait pour des films de monstres, bah, ça rentrait pile poil dans cette idée de faisons une expo sur les monstres, mais pour parler de nous. Parce que je trouvais que les affiches de Durieux avaient cette force esthétique de pouvoir être décrypté et nous faire comprendre que le monstre, c'est nous, en fait. Mmh, ouais. Et que l'autre n'est un monstre que parce que je l'écarte de l'humanité, pas parce qu'il s'écarte lui-même de l'humanité.
Voilà, c'est par rapport à un référentiel. De tout temps, les monstres existent-ils? Y a-t-il des civilisations comme ça qu'on a recensées qui en sont exemptes? Vous avez également le parti pris de fixer dans une époque cette exposition.
Bon, déjà, les monstres existent depuis tout temps, parce que, enfin, en tout cas, tout temps. En tout cas, depuis l'Antiquité grecque et asiatique aussi. Parce que ce que c'est qu'un monstre, déjà, c'est deux choses, un monstre. Hein. C'est un monstre réel, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on appellerait quelqu'un en situation de handicap. Donc, quand un enfant siamois naît au 4e siècle avant Jésus-Christ, même s'il ne vit pas très longtemps, on parle d'un monstre. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'un monstre? Parce que étymologiquement, le terme monstre, ça veut dire l'avertissement. Autrement dit, lorsqu'un enfant siamois naît, on se pose une question qui est pour nous évidente, mais qui ne l'est pas il y a 2500 ans, c'est comment deux individus normaux, entre guillemets, ou sans handicap, peuvent donner naissance à un enfant siamois? Alors nous, ça va, la génétique, tout ça, on n'est pas sûr d'arriver à le trouver, mais on sait qu'il y a des trucs comme ça. Mais il y a 2500 ans, vous ne savez pas. Et donc, en fait, ce qu'on imagine, c'est que ces êtres qu'on va dire non normaux, hein, dans ce que c'est que la normalité de l'époque, hein, je prends au sens non péjoratif, mais au sens de la norme, bah, s'ils sont là, c'est parce qu'ils viennent exprimer quelque chose. Et s'ils viennent exprimer quelque chose, bah, c'est que les dieux les ont envoyés. Et si les dieux les ont envoyés, c'est que le but de ces monstres, c'est de nous avertir. Donc, en fait, à travers un enfant siamois, on va essayer de comprendre ce que les dieux essaient de nous dire à travers lui. Voilà, c'est ça. Un monstre, c'est ça au départ. Et donc, cette idée-là est très ancienne. On la trouve au Japon avec les yokai, on la trouve en Europe avec les monstres réels, et on les trouve aussi dans les monstres de la fiction ou des légendes. Si vous prenez Polyphème, donc le cyclope d'Ulysse, hein, dans l'Odyssée, un grec sait pertinemment que les cyclopes n'existent pas. Mais il comprend que ce monstre, hein, c'est-à-dire ce personnage anormal, en fait, ou non normal, ou non normé, je ne sais pas comment dire. Évidemment, la bien-pensance était un peu moins active chez les Grecs. Bah, il comprend que cette figure n'existe pas, mais qu'elle l'avertit de quelque chose. Qu'elle avertit le lecteur de quelque chose. Et il y a deux choses que Polyphème fait que les Grecs ne font pas du tout. C'est qu'il mange sa nourriture sans la cuire et il ne respecte pas les dieux. Autrement dit, pour un grec, c'est évident que Polyphème est une image, un monstre, qui avertit qu'un être civilisé, qui n'a pas une vue étriquée, donc qui n'a pas qu'un œil, c'est quelqu'un qui cuit sa nourriture, et c'est quelqu'un qui respecte les dieux. Donc c'est ça, le monstre, au départ.
Oui.
Et pendant longtemps, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à peu près. Alors, bien sûr, il y a des théories alternatives, etc. On essaie de comprendre. Au Moyen-Âge, c'est Satan, par exemple, qui contamine l'imaginaire féminin et qui va faire que bah, l'enfant va devenir anormal parce que Satan est pas loin. Mais il y a toujours cette idée que c'est pas deux humains qui donnent naissance à un monstre. Il y a un autre truc, hein, qu'on maîtrise pas, qui peut être ésotérique ou autre. Et ça, c'est ça le monstre, en fait. Et il faut attendre les années 1830 pour que le monstre, avec une science qui s'appelle la tératologie, pour que le monstre devienne un humain. C'est-à-dire avant le 18e, avant le 19e, c'est pas trop un humain. C'est, enfin, ça ressemble, mais c'est un autre truc. Dès 1830, un monstre, c'est un humain qui a eu un problème dans son développement, on va dire, durant la grossesse.
Ouais.
qui fait que bah, le développement s'est pas passé comme chez la plupart d'autres personnes. Avant ça, on n'a pas ces idées-là. Donc on sait pas trop. Hein. L'imaginaire féminin, évidemment. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a gardé ça. Vous savez qu'aujourd'hui, quand une femme est enceinte, on a tendance à dire qu'il faut réaliser ses caprices. On sait plus trop pourquoi d'ailleurs. Mais à la base, c'est parce qu'au Moyen Âge, comme on est convaincu que l'imaginaire féminin va s'imprimer sur l'enfant, si vous frustrez une femme pendant sa grossesse, la frustration qu'elle va ressentir, bah, elle va s'imprimer sur l'enfant. Et l'enfant va porter les stigmates de cette frustration. Alors nous, on a gardé cette vieille idée hein, qu'il ne faut pas la frustrer. Mais pourquoi ? Parce que si elle est frustrée, il y aura une problématique sur l'enfant. Et c'est une sorte de vieille superstition, mais qui montre ce que c'est qu'un monstre. C'est forcément un individu qui provient d'une cause extérieure à lui. Le père, la mère, les dieux, enfin n'importe quoi. Mais c'est en tout cas pas lié au développement génétique. Il faut attendre évidemment les progrès en biologie et puis plus tard en génétique pour comprendre en fait que la formation d'un individu peut rencontrer des problématiques qui vont créer des handicaps. Avant le 19e, c'est pas ça. Et donc dès qu'on a les monstres, dès que les monstres deviennent humains, bah, on va commencer à les appeler autrement. Parce que souvent, c'est plus des monstres puisque de fait, c'est pas des signes, c'est pas des avertissements, c'est des humains. Alors on va les appeler anormaux, puis infirmes, puis handicapés, puis maintenant situation de handicap. Donc la notion de handicap dérive de la notion de monstre. C'est pas deux choses différentes en fait. C'est une autre manière d'appeler une réalité physiologique. Et c'était ça qui m'a intéressé dans l'expo. C'était essayer des monstres de la fiction. Reprenait la vieille fonction des monstres, c'est-à-dire de nous avertir de quelque chose. Et si Dracula nous parlait d'autre chose que de nous faire peur, et si Frankenstein nous parlait d'autre chose, et ça. Et c'est ça le but, c'est d'analyser le monstre comme une figure d'avertissement. Mais avertissement, c'est-à-dire en fait de dire attention, l'humain peut être monstrueux, et voilà ce à quoi il ressemble, entre guillemets, quand il est monstrueux. Et c'est pour ça que l'expo, c'est jouer être un monstre.
D'accord. Des questions ? Pas pour le moment ? Alors, www.ailleurs.ch, ça c'est le site internet, parce qu'effectivement il y a l'exposition, mais il y a toutes les activités qui habitent le musée, des activités de médiation également, des activités hors mur, tout ça est sur le site internet et très bien indiqué. Revenons à cette question de monstre. J'aurais voulu questionner sur, oui, effectivement, l'altérité, mais est-ce le monstre également, sommes-nous constitutifs des histoires qu'on a entendues ? Le monstre a-t-il vocation également à participer à notre éducation d'une certaine manière ? Le monstre, est-ce qu'il est là pour éviter que l'enfant aille vers le puits ? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, comme je sais qu'il faut qu'on fasse assez vite, je vous pose les questions par deux. Le deuxième volet, c'est le monstre est-il également politique ? On a des films de propagande. Le monstre, ça peut être le bolchevique, qu'on appelait même le bolcheviste. Ça peut être le juif. Voilà. Est-ce que le monstre a également cette... s'en est-on emparé également dans ce champ-là ?
Bah, disons oui. Bon, déjà, le monstre, de nouveau, le monstre, c'est une image. Alors, si on prend le monstre de la fiction, hein, c'est une image de l'homme lorsque l'homme donc l'être humain se comporte de manière à problématique. Voilà. Vous voulez remplacer, vous voulez substituer Dieu, vous substituer à Dieu et maîtriser la création, bah vous êtes Dr Frankenstein qui est le vrai monstre de la et donc la créature de Frankenstein n'a pas d'autre vocation que de montrer par effet miroir en fait que le vrai monstre du roman c'est le docteur. C'est pour ça d'ailleurs que la créature ne parle pas dans le roman. Hein, c'est des lettres qui sont écrites par le docteur. Donc en fait, elle est très loin, la créature. Et elle commence à vouloir tuer l'entourage de Victor Frankenstein parce que Victor Frankenstein refuse de lui donner un nom. Hein, la créature dit « Comment je m'appelle ?» Il ne veut pas lui donner un nom, donc il l'exclut de l'humanité. Et puis en plus, la créature dit « Ok, tu ne veux pas me donner un nom, alors donne-moi au moins une femme, histoire que je ne sois pas tout seul. » Et il refuse. Et là, la créature rentre en colère en disant « Tu refuses que je fasse partie de l'humanité et en plus, tu refuses que je puisse avoir une compagne. Donc, tu vas partager mon statut. Je vais tuer tous tes proches. Là, tu seras seul et tu vas me suivre à travers le monde. Donc, tu vas quitter l'humanité. » Donc, la créature ne fait que de... C'est un contrepoint, en fait. Elle n'est pas intéressante en elle-même. Elle ne sert qu'à montrer la folie du docteur. Donc, c'est ça, le monstre. Donc inévitablement, le monstre a un rôle pédagogique évident. On a beaucoup de récits pour enfants qui vont soit identifier le monstre, mais beaucoup de récits qui vont plutôt raconter des monstres sympas. C'est-à-dire en fait l'enfant doit sûrement se sentir un peu comme un monstre, si vous voulez. C'est pas très bien pourquoi il est là, voyez, les adultes sont là, enfin, donc il doit se sentir différent. Et c'est pas pour rien que la plupart des ouvrages pour enfants vont plutôt mettre des monstres qui vont devoir accepter qu'ils sont des gentils, mais qui sont différents. Là, on est dans l'éducation de l'enfant, oui. En tant que tu fais partie de l'humanité, on est tous des monstres. Par contre, on apprend à vivre ensemble, donc à rester sympathiques les uns avec les autres. Et puis, donc ça, c'est voilà. Et puis après, pour la deuxième partie de la question, bah, évidemment que s'il y a des monstres humains, il y a des monstres politiques. Mais je crois que la figure du monstre, elle est surtout une figure qui montre à quel point l'individu est capable de stigmatiser. C'est-à-dire que on est moins dans le monstre social. Ça arrive, hein, mais c'est quand même là, le monstre social. Mais c'est plutôt la société monstrueuse, elle crée des monstres, en fait. Donc ces monstres, oui, ils évoquent les problématiques politiques. On peut penser au magicien d'Oz, par exemple, où les quatre personnages centraux du conte en fait, évoquent les quatre corps sociaux qui ont été mis de côté suite à la crise de l'or à la fin du 19e siècle aux États-Unis, hein, c'est-à-dire la royauté pour le lion, les agriculteurs pour l'épouvantail, les ouvriers pour l'homme de fer et la petite bourgeoisie pour Dorothy. Donc en fait, le monstre, de nouveau, il va servir à des questions critiques. C'est une figure critique, le monstre. Alors, soit critique de l'humain, vous stigmatisez les autres, vous refusez aux autres le statut d'humain. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est assez frappant. D'ailleurs, cette expo tombe bien. C'est à quel point, en fait, on vit dans une société qui se dit démocratique, liberté de penser, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est extrêmement jugeant si vous participez pas de la norme. Si vous refusez d'être dans la norme, en sachant qu'en plus une norme, elle se définit pas vraiment, hein, c'est un peu des espèces de on-dit et tout ça, alors vous allez avoir des jugements mais pires qu'avant mai 68. C'est-à-dire qu'on est plus dur qu'avant les révolutions culturelles des années 60. Donc on se retrouve dans un monde où l'autre est par définition un monstre. Et le but de l'expo, c'est de dire non, c'est jamais l'autre le monstre. C'est toujours soi-même. Et c'est parce que nous-mêmes voulons stigmatiser qu'on va créer des monstres, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est toujours le monstre de quelqu'un. On est toujours stigmatisé par un autre. Donc le monstre peut être politique, religieux, érotique, affectif, tout un peu.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Marc Attala, d'avoir pris tout ce temps-là. Très rapidement, encore deux petites questions, et puis vous me direz encore si vous avez quelque chose à dire. Pierre, tu as une question ? Vas-y, à toi la parole.
Deux micro-questions. La première, c'est de savoir comment un musée comme le vôtre vit dans un monde, finalement, où la réalité rattrape, entre guillemets, la science-fiction année après année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde se balade avec un ordinateur dans la poche, tout le monde est hyper communicant, tout le monde a les parsecs, les corpec, enfin, tous les téléphones qu'on lisait dans la science-fiction. Moi, j'ai l'impression que, en fait, vous sortez des murs, vous allez dans la ville, et puis c'est comme ça que vous jouez avec l'interface entre la réalité et ce qu'on appelle la science-fiction ou l'utopie.
Alors c'est une question vaste. Je dirais que pour moi, la science-fiction, c'est ce qu'on voit depuis la fin du 19e siècle. En fait, c'est une sorte de caisse de résonance critique. Autrement dit, ces récits ont pour vocation, alors peut-être pour les meilleurs d'entre eux, peut-être pas pour tous, parce que la production de la science-fiction est tellement massive, tout n'est pas non plus incroyable, hein, mais pour les meilleurs d'entre eux, ils arrivent les écrivains, les réalisateurs ou autres, ils arrivent créer un écho critique aux technologies qu'on utilise. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que nos téléphones portables, par exemple, qui a modifié fondamentalement notre existence et notre rapport à autrui, mais aussi à nous-mêmes, on l'interroge assez peu, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, vous ne demandez pas... c'est pas un outil que vous interrogez, vraiment. C'est là, ça. Puis je l'utilise, puis des fois, je me dis, ah, j'en ai un peu marre de passer autant d'heures dessus. Mais je ne prends pas le temps de m'interroger là-dessus. Et je trouve que la science-fiction a cette espèce de vocation de pouvoir créer des situations extrêmes dans lesquelles, d'un coup, on va se dire, mais en fait, ce truc-là que ce type vit dans ce monde futuriste, c'est ce que je vis, moi. Si je prends un exemple extrêmement rapide, quand Wells écrit La Guerre des Mondes, il croit pas aux Martiens, Wells. mais il fait une analogie que je trouve incroyable. Il dit, il utilise les sciences de son temps, donc l'astronomie en particulier, les théories de Lowell sur le fait que plus vous êtes loin du Soleil, plus vous êtes vieux. Donc il dit, si je suis sur Mars, et en plus on vient de voir les canaux martiens, il dit, Mars est en train de crever, puisque c'est plus vieux que la Terre. Et s'il y a des canaux, c'est que c'est encore en plus en train de crever. Donc ils doivent creuser pour avoir de l'eau. Donc en fait, les Martiens viennent sur Terre pour aller prendre des ressources. Mais c'est normal, parce qu'ils sont en train de crever sur la planète. Sauf que Wells ne se dit pas que c'est comme ça que ça passe. Il dit, aujourd'hui, moi, je vis dans la société victorienne de la fin du 19e siècle. Nous aussi, victoriens, allons chercher des ressources dans d'autres pays. Donc, on est en train de crever. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il est anti-victorien. C'est qu'en fait, il va utiliser des images pour dire, de manière critique, nous nous glorifions de la force de l'Empire victorien, mais en fait, on est juste en train de crever. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'aller chercher des ressources ailleurs. Et c'est ça, les martiens de Wells. C'est pas du tout les petits hommes verts qu'on verra plus tard. Donc pour moi, la science-fiction, aujourd'hui, elle est nécessaire. Et je crois qu'on est de plus en plus proche de l'esprit de Versin des années 60-70. C'est-à-dire, c'est un lieu, pour moi, de contre-culture. C'est un lieu qui doit poser des questions qui dérangent, qui doit agacer. Alors, c'est pas toujours pratique de concilier politique et ça, mais moi, j'assumerai ça jusqu'au bout. J'ai envie d'agacer. Je comprends pas aujourd'hui comment ça se fait, par exemple, qu'on ait tous les mêmes idées. Si vous regardez les réseaux sociaux, les politiques, tout le monde a les mêmes idées. Et donc, on dit que c'est que des discours vides. Parce que tout le monde nous dit les mêmes mots, transparence, bienveillance, machin, inclusion, etc. Mais on n'a jamais autant été ségrégationniste, on n'a jamais autant fait du mal de manière un peu hypocrite aux gens. Mais on se couvre derrière un super beau discours. Et la maison d'ailleurs, elle a ce fond contre-culturel, cette espèce d'esprit peut-être un peu marginal de la science-fiction d'avant. Hein. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas, mais d'avant, qui est de dire, est-ce qu'on a envie de s'aveugler ? Et de faire semblant qu'on est juste un musée super sympa et qu'on met des beaux tableaux, ou est-ce qu'on veut faire autre chose? Et moi, j'aime bien cette idée de faire autre chose. Et c'est d'abord pour ça que je sors des murs. C'est de dire, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Nos grands-parents, enfin, moi, ça dépend quel âge on a, mais moi qui ai 40 ans, mes parents qui ont vécu dans les années 60, je pense qu'ils étaient plus avancés et plus libres que nous. Bizarrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait ce souffle de liberté après mai 68 et la contre-culture américaine, où fin de l'autoritarisme, on en a marre des parents, on veut vivre autrement, peace and love et tout ça. Et aujourd'hui, c'est extrêmement sclérosé. Si vous pensez pas comme la bien-pensance, on vous stigmatise automatiquement et on vous juge. Donc vous avez plus d'autre choix que de reprendre des discours qui préexistent. C'est-à-dire qu'en fait, on devient dans une sorte de police de la pensée à la Orwell, où si vous n'avez pas la pensée dominante... en plus, on vous juge. C'est-à-dire, en fait, c'est un problème, quoi. C'est pas juste... Et ça, pour moi, la maison d'ailleurs, elle a ce rôle-là. C'est ce rôle d'être critique, mais c'est pas la maison d'ailleurs en tant que telle. Techniquement, toute institution culturelle devrait faire ça, selon moi. Hein. C'est ce que Foucault appelait les hétérotopies, de renverser les valeurs sociales et de proposer un discours différent. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Et puis moi, j'aime bien ça, parce que je pense que ça manque, sinon. Sinon, c'est un truc où vous amusez le dimanche. Puis c'est des jolis tableaux. Puis voilà. Ça, c'était la première question.
Ok, alors on va s'arrêter là. Encore deux petites choses rapidement. Avez-vous un monstre de prédilection? Cette question-là, c'est parce que j'aimerais savoir si vous nous conseilleriez un film, un livre comme ça qui vous ont particulièrement touché dans le monde de la science-fiction.
Alors, je vais répondre un peu de manière banale, mais mon monstre préféré, c'est l'humain. Parce qu'il est autant capable, alors ça c'est pas le truc plus cool, il est autant capable de stigmatiser, donc de créer des hors normes, mais il est aussi capable de se remettre en question. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de. Enfin, c'est un monstre qui est capable de l'être un peu moins. Alors qu'un monstre de cinéma il peut pas, il est gris. Donc l'humain il a cette espèce de capacité de se comporter de manière atroce, mais en même temps il a aussi la capacité de faire bouger les normes. Mmh. Et puis si je devais conseiller après ça dépend si on regarde un livre, un film, etc. Mais il y a un livre que j'aime bien avec des monstres modernes comme ça, en l'occurrence c'est un monstre qui est un cyborg, c'est un livre qui s'appelle Le Dernier de son espèce, qui est un roman d'un auteur qui s'appelle Andreas Eschbach, qui n'est pas un auteur très connu, mais c'est un roman absolument incroyable sur un individu qui a décidé à un moment de devenir un cyborg. Donc surpuissant, comme ça, un homme hybridé à la technologie. Sauf que le problème, c'est que ce cyborg dysfonctionne en permanence. Rien ne fonctionne jamais. Donc tout ce qu'il essaye de faire ne marche pas. À cause de cette transformation-là, donc. Hein. Ouais. Et donc c'est un roman extrêmement sensible, extrêmement humain, qui montre aussi à quel point on cherche aussi à se transformer à travers des figures autres pour pallier nos faiblesses, nos fragilités, mais à quel point on est systématiquement renvoyé à ces mêmes faiblesses et fragilités. Et donc ce que fait le héros, le personnage principal de son espèce, c'est qu'il lit Sénèque. Et donc il lit les stoïciens pour revenir à qu'est-ce que c'est qu'être humain, et donc c'est un héros introspectif, et donc c'est un monstre introspectif. C'est un type qui dit voilà, j'ai décidé de ne plus être humain, bon, ça va pas, je dois me réapproprier mon humanité. Alors ça marche autant parce que c'est un cyborg que par le fait que ses désirs l'ont poussé à vouloir être autre chose qu'un être humain, à fuir ses traumas, etc. Donc c'est un très très beau livre, excellemment bien écrit, assez complexe aussi pour ceux qui veulent un peu de la littérature un peu plus complexe. Il n'est pas complexe, mais on peut aller plus loin que juste la trame principale. Puis dans un film, si je devais trouver un film que j'aime bien des monstres, de nouveau là, je ne suis pas sûr de faire très original, mais j'aime bien le film District 9 de Blomkamp, parce que c'est un bon traitement de l'alien, qui montre qu'en fait, quand on voit ce film, on comprend que l'alien, c'est celui qu'on a monstrifié, en l'occurrence pendant l'apartheid, alors qu'il est innocent, ou qu'il est inoffensif. Ouais. Et ça montre comment la science-fiction va utiliser des images très fortes pour parler finalement du quotidien humain, mais en l'exagérant, en fait. C'est en exagérant, c'est-à-dire plutôt que quand on parque évidemment des indigènes d'Afrique du Sud dans un ghetto, on trouve ça inhumain. Mais dans un film, quand on met des aliens, des extraterrestres dans un ghetto, a priori, on trouve ça normal. Et le film nous emmène dans quelque chose où on se rend compte à quel point l'humain peut être atroce avec ses pères ou avec ses congénères.
Joe est un monstre, alors ça court depuis déjà le mois de novembre et ce sera jusqu'au 9 janvier 2022. Ici à la maison d'ailleurs, je retrouve l'adresse Place Pestalozzi 14, donc à Yverdon. Les horaires d'ouverture du mardi au dimanche, 11h à 18h, c'est fermé le lundi. Le site internet www.ailleurs.ch. Une toute dernière question. Pourquoi devrais-je venir voir ces monstres? Pourquoi?
Eh ben alors ça, je sais strictement. Je crois que l'humain... C'est Voltaire qui disait que l'ironie était la meilleure manière d'accéder à l'introspection. Et quand on parle d'ironie, évidemment, c'est pas juste le gag ironique qu'on fait, c'est la prise de distance. L'ironie, c'est mettre à distance son discours par rapport à ce qu'on veut dire. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être que le monde dans lequel on vit manque beaucoup d'ironie. Et donc d'humour. Et je crois que l'expo, que la maison d'ailleurs, comme plein d'autres institutions, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans le musée. C'est un outil, un accélérateur quelque part, qui me permet de me regarder différemment. Qui me présente peut-être pas mon portrait le plus glorieux, mais un portrait suffisamment déformé, suffisamment ironique, pour que je puisse me dire, disons que être humain, c'est une lutte permanente. C'est pas quelque chose qui est une donnée brute comme ça, c'est une lutte permanente. Et donc je pense que c'est sans cette lutte-là, la notion de démocratie et de liberté n'a aucun sens. Donc ça veut dire que je peux résumer ça et mon responsable marketing serait très content en disant venir dans un musée comme la maison d'ailleurs, c'est activer sa liberté.
Marc Attala, merci beaucoup.
Merci à vous.